Histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo.
These people are customers because they are willing to trade money for widgets. And all the customers take their widgets home to all parts of the country. Look at all that money the widget builder has taken in from the sale of his widgets.
Bienvenue dans le podcast Histoire naturelle. Cet épisode est le dernier de la saison 2 du podcast, on pourrait l'appeler le podcast de Noël. J'ai pris de nouveau beaucoup de plaisir à construire ce podcast avec vous et à monter les épisodes, et je remercie tous les intervenants, cela me va droit au cœur, qu'ils me proposent parfois leur participation. Tous ces épisodes sont disponibles sur les plateformes Apple, Spotify, Deezer, Anchor FM et bien d'autres sites inspirants. Nous avons pu parler cette saison de transmission des enjeux de la nature aux enfants à travers la littérature jeunesse, à travers des témoignages d'enseignants et d'enseignantes auprès d'adolescents et de jeunes enfants. Nous avons voyagé dans l'esprit d'une artiste qui a fait le lien entre art et science, et nous avons voyagé dans le temps avec Louis XVI, les botanistes et les physiocrates. Et enfin, je vous avais fait quelques recommandations de lecture dans l'épisode 12 sur des essais qui viennent bouleverser nos consciences et nos paradigmes sur les enjeux de la nature. La nature est un sujet vaste, trop, et j'en ai bien conscience. Ce sujet me permet néanmoins de conserver une liberté qui nous convie à nous intéresser à tous les thèmes possibles autour de la nature. Il n'est jamais question de rester dans les carcans d'une nature trop scientifique ou d'une nature trop historicisée. L'ambition de ce podcast est de se poser continuellement des questions et de s'interroger sans cesse sur les fondements de notre société en relation avec la nature. Dans un article récent sur Reporter, le quotidien de l'écologie, Philippe Descola, anthropologue connu pour ses recherches autour des concepts nature-culture, nous a invités à reconsidérer l'idée de nature dans sa totalité. Il explique qu'il a pu, avant les années 70, construire sa recherche en étudiant des sociétés et des systèmes qui n'avaient pas encore été affectés par l'économie de plantation, le capitalisme et l'épuisement des ressources liées à ces systèmes dévastateurs et destructeurs. Il raconte comment des sociétés avaient déjà cette conscience de transformer la nature. Notre vision d'Européens, ou d'Occidentaux en général, nous a amenés à penser les peuples que Descola a étudiés en peuples naturels, voire primitifs, une idée qui fut bien plus destructrice. Pourtant, dans ces sociétés, le rêve, les animismes et beaucoup de pratiques et rituels disparus en Europe, par exemple, questionnent déjà les concepts de non-humain, de communication avec la nature, de commensalité interespèces et de sacralisation des ressources naturelles afin qu'elles ne disparaissent pas. Aujourd'hui, notre impression est que, comme le dit Descola, la nature est une abstraction trop complexe à saisir. Elle est difficilement appréhendée en droit, tout comme elle est un langage qu'encore non interprété par les historiens, les écrivains, les artistes et les poètes. La science n'a pas encore acquis l'entièreté du savoir sur les choses de la nature non plus. Dans cet épisode, Estelle de Sentier des Images, et je vous laisserai son compte Instagram qu'il faut absolument suivre en barre d'infos du podcast, nous raconte la lecture qui l'a marquée définitivement et durablement avec ses mots. Je vous souhaite une bonne écoute.
Pour le podcast Histoire naturelle, littérature et nature. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée par tout ce qui touche au vivant et plus particulièrement à sa diversité en espèces, en écosystèmes, en paysages, en culture. Si ma conscience écologique grandit déjà depuis de nombreuses années au contact de médias multiples, de rencontres et sur le terrain et par l'expérience, elle a évolué dans un sens nouveau depuis la lecture du roman que je vais vous présenter. Je m'intéresse ainsi beaucoup plus aux relations interspécifiques et surtout entre humains et autres espèces ou encore entre l'humain et son environnement, les manières aussi de vivre, d'expérimenter le vivant, la nature et les perceptions qu'on peut en avoir. Ce livre, c'est La forêt des 29 d'Irène Frein. L'autrice a mené une véritable enquête sur place pour retrouver témoignages et faits historiques sur Djambo, fondateur de la communauté Bishnoi, au nord de l'Inde dans le Rajasthan au 15e siècle de notre ère. Cette communauté est aussi connue sous le nom de 29, du nombre de préceptes qui régissent la vie de la communauté pour laquelle les arbres, le respect du vivant et l'égalité passent avant toute chose. La forêt des 29 relate ainsi, entre conte réaliste et quête initiatique, le destin de ce jeune paysan, dans l'âpreté du désert indien et du cœur des hommes et l'espoir, venu de la forêt et de la vie sauvage. Le tour de force du roman tient à la fois dans la modernité du propos et dans le questionnement sur ce à quoi peut ressembler un éveil humaniste et écologique. Avec le recul historique, il est plus aisé pour l'autrice de donner au roman une tonalité écologique tant les parallèles avec notre époque sont nombreux. Il est amplement question par exemple des constructions d'édifices à la gloire de puissants au détriment des ressources naturelles, de la chasse effrénée, du gaspillage des ressources. C'est ainsi que disparaissent les forêts et que le désert et la sécheresse gagnent au nord de l'Inde. Mais les faits relatés et consignés, le fait que les bisnoïs aient traversé les siècles, sans que leurs règles communautaires aient beaucoup changé, font comprendre qu'en dépit de la romance et de la transmission du récit en mille nuances, les faits sont réalistes jusqu'à un certain point. Tout le début du récit est un miroir à notre monde moderne, la jeunesse insouciante qui gaspille, les vieux sages qui alertent mais ne sont pas écoutés, les adultes qui sont trop occupés à travailler et préfèrent se tourner vers des dieux muets comme seule réponse à leurs soucis. L'effroi vient de ce qu'aujourd'hui le réchauffement climatique ressemble étrangement à la sécheresse qui sévit à l'époque au Rajasthan si ce n'est qu'en ces temps, le monde des hommes était encore jeune, et il était donc possible de le parcourir, d'y découvrir des zones inhabitées et habitables. Aujourd'hui, notre monde est presque entièrement colonisé si bien qu'on se projette de plus en plus vers les autres planètes de notre système solaire, et pourtant, on voit apparaître des formes de résilience, de communautés alternatives qui explorent d'autres modes de vie, d'alimentation, de gouvernance, sur notre bonne vieille planète. Même si le récit focalise sur l'histoire de Jumbo, il m'a semblé qu'il remettait totalement en perspective ce qu'on croit savoir de la conscience écologique. De fait, c'est probablement loin d'être une construction récente et il est possible que dans nos manières d'être avec le vivant, on se soit rendu compte assez tôt des effets de nos actes sur les ressources naturelles, même si c'est souvent arrivé que cela soit trop tard pour inverser les destructions. Cela m'a permis aussi de comprendre que la conscience écologique n'est pas non plus une affaire d'Européens, de Blancs, de Modernes. Cela me fait intégrer que la compréhension de ce monde, des nombreuses interactions entre les espèces et même entre nous humains de différentes cultures, tout ça dépend de l'expérience qu'on en fait, de notre observation, de notre perception, de notre histoire, de notre manière d'être et de devenir au monde. L'autre modernité des Bisnois, et à l'époque c'est peu de dire que c'est moderne, c'est leur mode de gouvernance, il n'existe pas vraiment. Les 29 règles ont été établies par le groupe fondateur de la communauté, en concertation, et le système de caste a ainsi été aboli. En soi, un bel exemple anarchiste qui redonne toute sa place à la nature, humain compris, comme voie à suivre, si on sait l'observer. Ces règles sont aussi totalement adaptées à la situation géographique et à l'expérimentation des membres de la communauté. Elles sont peu nombreuses, mais assez parlantes à l'époque pour qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Tous les aspects abordés dans le roman trouvent leur écho dans notre monde moderne et rendent la situation planétaire actuelle d'autant plus lisible. Même si on est déjà au courant et conscient des problématiques environnementales et sociales, l'histoire de Jumbo rappelle que malheureusement l'histoire humaine tend à se répéter souvent, comme si la parole, les écrits de notre histoire finissaient par se perdre et par ne plus ressembler qu'à un conte ou une légende, un peu comme l'histoire de Jumbo et des bisnoïs. Dans le même temps, le personnage se refuse à tout fatalisme, lui qui est un marginal depuis la naissance, et son entreprise nous permet aussi de comprendre que peut-être de nouveaux mondes sont à bâtir, après nous être libérés du poids de systèmes culturels et politiques nocifs pour le vivant.
Je vous remercie pour votre écoute. Dans les prochains épisodes de la saison 3 du podcast Histoire Naturelle, qui débuteront en janvier 2022, nous continuerons d'écouter ceux et celles qui étudient, pensent, lisent, dissèquent la nature pour mieux la déconstruire et la saisir dans son ensemble, comme dans ses particularités. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à écouter le podcast, à le partager et à me faire des retours chaleureux. Bonne fête de fin d'année à tous et à toutes. à 2022.